Elle était une fois une femme dans un monde d'hommes. Un monde qui avait tué des milliers de femmes, brûlé des milliers d'entre elles pour garder le contrôle et le pouvoir. Alors cette femme voulait hurler sa colère et son dégoût face à cette violence injuste et à cette domination abusive. Elle appela donc à elle ses sœurs et ses adelfes pour faire entendre leur voix et que l'humanité n'oublie jamais les horreurs commises. Bienvenue sur Radio G dans « Elle était une fois », votre émission féministe qui met en lumière les sorcières d'hier et d'aujourd'hui. Vous nous suivez sur le 101.5 FM ou sur radio-g.fr où vous pouvez d'ailleurs nous écrire. Moi c'est Astrid et pour m'accompagner durant cette prochaine heure, je peux compter sur la fine équipe, mes acolytes et mes copines réunies, pas pour la première fois au complet, Emeline et Mayalène, comment ça va vous deux? Bonjour à vous.
Ça va très bien.
Ça va très bien. Et toi Mayalène?
Ça va nickel, toujours contente d'être au studio pour tourner, donc nickel.
Mais je suis trop trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission. Au sommaire de cette émission, on vous fait découvrir le groupe nantais d'électroclash Sexy Sushi. Vous connaissez Ruth Ellis, la dernière femme, à avoir été exécutée au Royaume-Uni? Non? Eh bien, restez avec nous alors pour découvrir son histoire. On vous présente aussi Atmosphère de Taylor Jenkins Reid dans le nouveau point littéraire de Léonie. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de quelque chose que nous avons malheureusement toutes vécu. La peur une fois la nuit tombée, l'angoisse de la rue et surtout des comportements malsains. Je veux parler du harcèlement de rue et de la façon dont on peut s'en protéger. On en discute dans quelques instants, alors restez avec nous. Dans chaque émission, nous recevons une angevine ou un collectif engagé pour le féminisme et les luttes intersectionnelles, ou juste une femme trop stylée qui mérite d'être mise en avant. Et aujourd'hui, nous recevons une femme qui a de la magie au bout des doigts. C'est Zoé de l'Atelier au Tournesol, créatrice de bijoux et de petits objets poétiques. Bonjour Zoé, comment ça va?
Bonjour Astrid, ça va très bien, merci.
Nous découvrirons ta boutique, tes créations et tes projets dans un quart d'heure environ, alors restez avec nous. Vous êtes sur Radio G, 101.5 FM, pendant une heure où on vous accompagne pour lutter contre le patriarcat. Une heure dédiée aux femmes pour enfin les mettre dans la lumière qu'elles méritent. Vous êtes dans Elle était une fois. On commence avant tout par un petit tour de l'actualité avec l'appel aux dons de la Fondation des femmes. La Fondation des femmes est la fondation de référence en France pour les droits et la lutte pour les droits des femmes et la lutte contre les violences faites aux femmes. Grâce aux dons qu'elle reçoit, elle apporte un soutien financier, juridique et matériel aux initiatives associatives et sur tout le territoire. Elle a notamment permis l'ouverture de centres d'accueil pour les femmes victimes de violences et ou en situation de précarité. Malheureusement, la situation économique globale et les coupes budgétaires ont compliqué le financement de ces initiatives et certaines sont menacées de fermeture. Ainsi, la Fondation des femmes lance un appel aux dons à l'échelle nationale pour poursuivre leurs actions. Vous pouvez donc, pour celles et ceux qui le souhaitent et le peuvent, faire un don ponctuel ou devenir mécène mensuel sur le site donner.fondationdesfemmes.org. Je répète, donner.fondationdesfemmes.org. Je vous en parle parce que j'ai reçu un appel d'une personne travaillant là-bas, donc ça me tenait à cœur de partager leur message. Mais bien évidemment, si vous ne pouvez pas faire de don, c'est totalement OK. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Un partage est tout aussi important. Du côté d'Angers maintenant, il y a aussi des choses à dire. Je me suis rendue le 4 novembre dernier à la 3e édition du Bagarre Comédie. Pour rappel, pour celles qui dormaient au fond de la classe, le Bagarre Comédie est le nouveau plateau de stand-up du Joker's Café, créé et dirigé par Anne-Claire Chapa et Capucine Brébion, que nous avions reçu sur notre plateau il y a quelques semaines. Et bah les meufs, je peux vous dire que j'ai passé l'une de mes meilleures soirées. J'ai découvert le stand-up assez récemment et j'ai jamais autant kiffé que l'édition au Bagarre. Franchement, c'était trop trop bien. Au programme, il y avait 5 humoristes trop stylés et trop badass qui se relayaient sur scène. Donc si vous avez l'occasion d'aller à la prochaine édition, franchement, foncez sans hésiter. Est-ce que sur le plateau, vous regardez un petit peu, vous allez voir un petit peu du stand-up ou pas trop, pas tellement? Mayalène?
Vraiment pas tellement. En fait, enfin, genre j'ai l'impression que c'est pas mon truc. Après, j'ai jamais regardé sur un plateau, mais okay. Je sais que les vidéos, j'ai déjà regardé et vraiment, j'aime pas.
Ouais, pas ouf.
Ça me touche pas.
Ok. et t'aurais envie de, d'aller découvrir le bagarre. Genre si la prochaine édition, je vous dis, les filles, on va au bagarre, ça te dit de venir?
Bah, toujours partante pour découvrir de nouvelles choses.
Ok.
Donc en vrai, pourquoi pas?
Ok, trop bien. Bah, je prends note pour une prochaine sortie. Emeline, est-ce que toi, tu regardes un peu de stand-up? Tu as déjà été voir ou pas trop?
Alors, je suis jamais allée en voir en vrai, mais des fois, sur les réseaux, je tombe sur des vidéos, je regarde un peu. Bon, des fois, ça me fait rire ou non, ça dépend, mais franchement, je trouve ça quand même sympa en vrai.
Ok, trop bien. Et toi, Zoé, est-ce que t'es familière avec le stand-up ou pas tellement?
Alors, effectivement, j'aime bien regarder à la télé. Il y avait beaucoup de spectacles rediffusés, notamment ceux de Florence Foresti.
Ok.
Et sinon, j'ai eu l'occasion, mais une seule fois, de me rendre dans un spectacle de stand-up. C'était en région parisienne et c'était plutôt sympa.
Ok.
Personne moins connue.
Ok, ouais, en région parisienne, ok. Trop bien. Et ben, en tout cas, à Angers, il y a plein d'artistes, d'humoristes et d'artistes de stand-up qui sont trop, trop cool et trop stylés. Et le bagarre nous en propose à chaque fois de nouvelles et c'est trop, trop bien. On continue maintenant avec les nouvelles pépites de la semaine. Je vais partager ce que nous a déniché Anna. Au programme aujourd'hui, on retrouve un groupe français cassant les codes, une infiltration dans le monde du tabou, c'est tout de suite dans le Point Culture d'Elle était une fois. Mardi 9 juin 2025, sortie d'un nouveau morceau nommé La Politesse et d'un vinyle spécial de leur album Tu l'as bien mérité, datant de 2009. Jamais en retard, toujours dans la surprise, on parle aujourd'hui de Sexy Sushi. Connus pour leur son Sex Appeal, J'aime mon pays ou encore A bien regarder Rachida, le groupe Sexy Sushi se forme en 2001 avec la chanteuse Rebecca Warrior et Mitch Silver, le musicien. Dans leur musique, on y explore le style électroclash et technopunk. Pour la technopunk, on y voit à peu près tout ce que ça représente. Mais alors, l'électroclash, en gros, qu'est-ce que c'est ? L'électroclash, c'est un mélange d'électro, de new wave, synth-pop, de techno, d'électropop et de la dance. Et ça fait beaucoup, mais étrangement, c'est kiffant. Étant donné que Rebecca Warrior écrit les paroles en grande partie, je me permets de me concentrer sur elle, évidemment, puisqu'elle aborde dans ses textes des thèmes sexuels, mais aussi politico-sociaux, tout ça sous des titres crus et sans retenue. En passant par le coït entre la chanteuse et une policière, à travers la fétichisation d'une femme de loi, j'ai remarqué que les paroles de Sexy Sushi s'ouvraient sur un fantasme autour de la femme de pouvoir dominante. Ce qui est cool, c'est que ça casse à 100% les codes patriarcaux et hétéronormés, où la femme est juste un objet de soumission. Au contraire, Rebecca Warrior aime bien intégrer la peau de l'homme machiste par excellence, celui qui gueule, celui qui grogne, qui pisse debout entre deux voitures et qui boit sa bière devant le match de foot un dimanche après-midi. C'est ce qu'on retrouve dans certaines de ses musiques, comme Aphrodisouk ou alors J'aime mon pays. En plus, la chanteuse est plus que rebelle, on l'entend gueuler dans chacune de ses chansons, critiquant la société, les personnes haut placées, les problèmes tabous comme le sexe, la drogue et l'alcool, les autres et soi. Bref, de fond en comble, Sexy Sushi tapait du pied, criait sur les toits, ce qui aujourd'hui est encore d'actu et fait encore fureur. Ah oui, et pour info, le groupe s'est séparé en 2014, mais il n'est jamais trop tard pour découvrir un genre underground pétant et engagé. D'ailleurs, on écoutera tout à l'heure un de leurs feats avec une artiste germanophone, parce qu'un mix de langues, c'est quand même encore plus cool. Peut-être êtes-vous tombé là-dessus récemment, mais la youtubeuse Charlie Danger a sorti une nouvelle vidéo tout aussi enrichissante que les précédentes qui traite cette fois-ci d'un sujet encore trop tabou, le porno. Et si j'ai choisi de m'intéresser à sa vidéo aujourd'hui, ce n'est pas parce que je relèverais de gros problèmes d'addiction, mais bien parce que la parole féminine dans ce genre de milieu est encore trop absente. Pendant 9 mois, Charlie Danger s'est plongée dans la grande industrie pornographique orange et noire, pour ne pas la citer, afin d'analyser l'algorithme et de constater si les recommandations que l'on nous proposait étaient réellement cohérentes avec nos fantasmes. L'équipe qui l'a accompagnée pointe du doigt les principales catégories qui reviennent de plus en plus sur le site. Dans le top 5, on va venir retrouver des termes portant sur la famille, du genre belle-mère, demi-sœur. J'ai même été outrée de voir le mot grand-mère. Donc, de l'inceste pur et dur. On a aussi adolescente, qui apparemment semble exciter un grand nombre de visiteurs du site. Le dernier mot-clé, le plus intéressant, arrivant en deuxième place du classement, c'est la violence. Et vous savez quoi ? Ben, ça ne m'étonne même pas. Quand on met tout ça en relation avec notre société actuelle, ben, ça résume plutôt bien tout ce qu'on retrouve dans le classement du porno. Pour ce qui est du tag teen, donc adolescente en français, on ne peut pas fermer les yeux sur l'infantilisation fétichisée au quotidien et tous les pédocriminels qui se cachent parmi nous parce qu'on le rappelle, mais un enfant sur deux sont agressés sexuellement par un adulte et la plupart du temps par un de leurs proches. Sauf que sur ces sites, c'est totalement légal parce que l'actrice a forcément au-dessus de 18 ans et incarne seulement, entre guillemets, un rôle d'enfant toute innocente. Et rien que le dire, ça me donne envie de gerber. Concernant la violence, il est évident que celle-ci est omniprésente dans notre vie à toutes et tous, sans même qu'on s'en rende compte. Elle est incarnée dans les sports, les jeux, etc. Et elle démontre en fait une volonté de dominer. Et c'est exactement ce que Charlie Danger remet en question dans son documentaire « La vision des femmes, la domination d'un genre sur l'autre et le rapport au consentement ». Elle évoque des chiffres qui, encore une fois, sont dégoûtants, sans mentir. Par exemple, 57% des hommes pensent que l'absence d'un non, c'est un oui. 66% trouvent ça difficile de savoir si c'est oui ou encore. 58% trouvent ça normal d'insister jusqu'au oui. Petit rappel, insister, forcer, c'est nuire au consentement. À partir de là, il n'existe plus. Et croyez-moi, dans le porno, le consentement est totalement absent. Entre les vidéos où le protagoniste menace, insiste ou exerce une pénétration pendant le sommeil de l'autre, vous pensez bien que toute cette histoire de réciprocité disparaît. Alors forcément, les personnes développant leur sexualité à partir de tous ces sites n'auront jamais les bonnes attitudes au lit et dans la vie de tous les jours. Bref, sans trop m'étaler sur le sujet, je vous conseille fortement d'aller checker la dernière vidéo de Charlie Danger sur sa chaîne YouTube, Les Revues du Monde, qui en vaut vraiment le détour. En attendant, le Point Culture s'arrête ici pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines pour plus de news culturelles et captivantes. Vous écoutez Radio G... Elle était une fois sur Radio G au 101.5 FM. Merci beaucoup Anna pour cette chronique. C'est super intéressant. Et on voit globalement un thème commun entre ces deux sujets, le rapport au corps et à la sexualité des femmes. Et je trouve que c'est un thème qui est super intéressant. Et rapidement, autour du plateau, est-ce que vous trouvez que la sexualité féminine, elle est encore taboue, Emeline?
En vrai, je pense que ça l'est toujours un peu.
Ouais.
En tout cas, dans la société en général. Enfin, en tout cas, je sais qu'entre copines, j'ai l'impression que c'est quand même moins tabou que si on parlait à juste. Enfin, en général, dans la société.
Ouais. Ok. Et toi, Mayalène, qu'est-ce que t'en penses?
Moi, je suis d'accord avec Emeline dans le sens où, par exemple, entre mes amis, que ça soit homme ou femme, il y a aucun sujet tabou.
Ouais.
Au niveau de la sexualité féminine. Après, je pense que voilà, ça dépend de tes fréquentations, etc. Enfin, ça dépend des personnes. Mais en tout cas, moi, de mon côté, je sais qu'il y en a pas. Mais après, au niveau de la société, je pense qu'il y a eu une petite avancée, mais c'est encore loin d'être ça.
Ouais.
Et c'est encore un gros tabou.
Ok, super. Et toi Zoé, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu trouves que la sexualité féminine, c'est encore tabou dans la société?
Alors un tabou, je ne sais pas, parce que je trouve quand même qu'on a tendance plus à en parler.
Alors rapproche-toi bien du micro.
Je trouve en tout cas qu'on a tendance plus à en parler.
Ouais.
Mais néanmoins, je pense qu'il y a plutôt un espèce de voile un peu flou autour plutôt du désir féminin.
Okay,
je trouve que c'est moins mis en avant. On voit beaucoup de fantasmes liés aux hommes, etc. Mais les désirs féminins sont encore peut-être un peu trop biaisés par une vision très pornographique, comme on peut le voir des fois dans les romans.
Effectivement.
Certaines romances.
Je suis tout à fait d'accord. Merci à vous pour cet échange et merci encore Anna pour cette nouvelle chronique. Vous vous souvenez de Russellis dont je vous parlais tout à l'heure, une femme dont l'histoire finit brutalement par sa condamnation à mort? C'est le portrait de la semaine que tu nous présentes, Emeline.
Elle était une fois une femme qui, en à peine 20 minutes, verra sa vie s'arrêter devant la justice anglaise. Elle s'appelle Russellis, la dernière femme pendue du Royaume-Uni. Elle est née à Rhyl, au nord du Pays de Galles, dans une famille modeste. Très jeune, elle vit un quotidien difficile puisqu'elle voit sa grande sœur Muriel se faire agresser sexuellement et physiquement par leur père. Elle tombera d'ailleurs enceinte, mais la police, à part quelques questions, ne se penchera pas plus sur le sujet. Et lorsqu'elle atteint l'âge de 11 ans, Rousse devient une cible pour son père. Muriel, qui le remarque, fait son mieux pour la protéger. Dès que la tension monte, elle s'empresse de faire sortir sa petite sœur de la maison. Rousse arrête l'école à 14 ans et enchaîne quelques boulots. En 1953, elle devient hôtesse de boîte de nuit et rencontre, par l'intermédiaire d'un ami, David Blakely, ancien pilote de course, séducteur. Rousse tombe éperdument amoureuse de lui. Malheureusement, il se révèle alcoolique et violent. En ayant marre de l'instabilité de leur relation, Rousse fait face à son problème et de son mécontentement et en fait part. Puis une dispute éclate et David pousse Rousse par le ventre, ce qui lui causera une fausse couche. Rousse décide qu'elle n'en peut plus et qu'elle doit trouver une solution pour mettre fin à son problème. Et le 10 avril 1955, dimanche de Pâques, Rousse demande à attendre David devant un pub londonien, non car elle avait rendez-vous avec lui, mais pour mettre fin à son supplice une bonne fois pour toutes. Elle est conduite par Kessen, un pilote de la Royal Air Force qu'elle voyait en secret. Il lui a d'ailleurs appris à tirer. À sa sortie, elle se rapproche, elle sort un revolver, tire 5 coups. Rousse ne fuit pas, elle est arrêtée et dit seulement « Je suis coupable, je suis un peu confuse ». Le procès est très rapide, le jury ne prend que 14 minutes pour délibérer. Seulement, le verdict sort, elle est condamnée à mort. Malgré le soutien de sa mère qui voulut ouvrir une pétition, elle refusera et acceptera sa peine. Le 13 juillet 1955, à la prison d'Holloway, elle est pendue par Albert Pierrepoint, bourreau officiel. L'opinion publique est bouleversée. Une femme victime de violences, comment est-ce possible que cela n'ait pas été pris en compte? L'affaire Rousse-Ellis devient un symbole. Elle accélère le débat sur la peine capitale qui sera abolie en 1969. Je vous parle de son histoire car je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Il y a eu un petit peu du nouveau dans l'histoire puisqu'aujourd'hui, ses petits-enfants demandent sa réhabilitation. Ils ne veulent plus qu'elle soit vue comme une criminelle mais comme une victime. Car Rousse-Ellis était bien plus qu'une femme meurtrière. Elle était une femme brisée, ignorée par la justice de son temps, qui méritait d'être mise en lumière.
Merci beaucoup, Emeline, pour ce nouveau portrait. C'était super intéressant, comme toujours. Nous allons à présent marquer une pause musicale qui nous est présentée par toi, Mayalen.
Alors moi, je vais vous présenter « Nettoyage au Karcher » de Kenny Arcana. Mm-hmm. Kenny Arcana, c'est une rappeuse marseillaise, dans une légende du rap français, et surtout dans les rappeuses. Et en fait, elle a sorti cet album, le son, il est dans Entre Ciment et Belle Étoile, c'est un album qui est sorti en 2006. Mm-hmm. Et en fait, ce morceau, il a été écrit par rapport à Nicolas Sarkozy qui avait sorti une phrase en 2005, c'était, je cite, « On va nettoyer la cité au Karcher ».
Ok.
Et bah là, ça...
Ça donne le ton.
Voilà, dans les quartiers populaires, ça a commencé à créer un engouement de fou. Et du coup, voilà, c'est un son vraiment pour remettre les bases en fait sur le fait que bah les politiciens sont pas des petits agneaux qui font rien, qui sont tout blanc, tout gentil,
bref, on a compris,
en casier vierge quoi,
ouais.
Alors que bon, monsieur Nicolas Sarkozy, voilà quoi.
Ok. Et ben donc Nettoyage au Karcher de Kenny Arcana, on vous retrouve dans un instant sur Radio G 101.5 FM ou sur radio-g.fr. bonne écoute.
La France change, on s'est dit avec mes compères que pour nettoyer au Karcher, on était volontaires, tous ces magouilleurs déguisés. Ok pour nettoyer la racaille, nous portons donc karchériser l'Elysée. Ces hommes d'affaires en forme de politiciens libéralisant le pays en dépit des vœux de la populace. Baillons dans la démocratie pour faire passer leurs lois, leurs décrets, même quand le peuple a dit assez. Gouvernement honteux, que rien n'amène à la démission. Le plus ridicule de toute l'histoire de la nation. Article 49.3, pression, couvre-feu, dépassé. Ta 5e république a pris un coup de vieux. Le bol s'élève, gouvernement illégitime depuis le nom à la constitution européenne. Partout ça se mobilise, anti-libéral. Et puis on se remplisse, la démocratie n'est pas libérale. Nettoyage au Karcher, sortez les dossiers du placard. C'est à l'Élysée qu'on se cache les plus grands des ragas. Nettoyage au Karcher, gouvernement honteux. Est-ce que rien n'amène à la démission? Nettoyage au Karcher, sortez les dossiers du placard. C'est à l'Élysée qu'on se cache les plus grands des ragas. Nettoyage au Karcher, gouvernement illégitime depuis le nom à la constitution européenne. Nos valeurs hypocrites qui écœurent stigmatisent nos quartiers pour que les autres aient peur. Des politiques qui jouent les acteurs n'assument pas le passé colonial. Et quand les banlieues pètent, accusent les rappeurs. Mauvaise foi exemplaire ou mémoire sélective au doux. Ce France de mon enfance joue l'amnésie. Que fait la belle quand elle part d'immigration? Ce n'est pas ton peuple collabo qui s'est battu contre l'occupation. Au sein de ton podium, toi qui fais si fier de tes soi-disant droits de l'homme et de ton siècle des lumières, ta philosophie humaniste s'est arrêtée à la théorie quand tes armées sont parties coloniser l'Afrique. La liberté d'expression, comme tout à deux vitesses, islamophobie à tout va, mais ne critique pas Israël. C'est la politique schizophrène de la France, fracture sociale maintenue et par l'égalité des chances. Nettoyage au Karcher, sortez les dossiers du placard. C'est à l'Élysée que se cache les plus grands des ragas. Nettoyage au Karcher, n'est pas ton peuple pour la peau qui
mensongères, nous la font à la transversale. Sortez les dossiers noirs, France-Afrique demande à Berchap. La France a oublié pour les quelques-uns qui vivent bien que certains sont morts pour le droit des travailleurs. Rappelle-le à Villepin, contrat première embauche, c'est exécute ou dégage. Régression sociale à tous les étages, bientôt le point de non-retour. Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois comme un facho. Au premier tour, Super Soro est arrivé, un Sarkozy totalitaire. N'oubliez pas que c'est par les hommes qu'est arrivé Hitler. Un ministre pro-Bush, l'OMC à son élève, Guillaume Sarkozy, vice-président du MEDEF. Pendant que les privatisations sèment la colère, nos politiques s'en réjouissent, en sont devenus actionnaires. Snop, les protestations, puis les criminalisent. Envoyez même le GIGN pour stopper des grévistes.
Voyage au par cher, sortez les dossiers du placard. C'est à l'Élysée que se cacher plus grand des ragas.
Voyage au par cher,
certains sont morts pour le droit des travailleurs. Rappelle-le à des
voyage au par cher, sortez les dossiers du placard. C'est à l'Élysée que se cacher plus grand des ragas.
Voyage au par cher,
au royaume des aveugles, les pornes sont rois comme un facho.
Vous êtes toujours avec nous sur le 100.5 FM dans Elle était une fois, votre émission féministe qui n'a pas peur de dire la vérité. Toujours avec mes copines, Emeline, ça va toujours ?
Ça va très bien.
Toujours avec Mayalen, ça va toujours aussi ?
Ça va toujours.
Trop trop bien. Et elle nous fait l'honneur d'être sur notre plateau, c'est Zoé de l'atelier au tournesol. Zoé, ça va toujours aussi ?
Ça va toujours, merci encore pour l'invitation.
Mais avec grand plaisir. Je disais plutôt qu'elle avait de la magie au bout des doigts et je vous souhaite de pouvoir en être témoin. C'est notre invitée de la semaine. Bonjour Zoé, je suis trop contente de te recevoir sur notre plateau. Pour la petite histoire, parce qu'ici on se dit tout, nous nous sommes rencontrés il y a quelques semaines à l'occasion du Piu Piu Market organisé au salon Kurnonski qui proposait une friperie géante, mais qui surtout mettait en avant des créatrices d'Angers et des alentours. Et je suis complètement tombée amoureuse de tes créations.
Merci.
Donc on va commencer par une petite contextualisation pour apprendre un petit peu à te connaître. Ça fait combien de temps que tu as créé ta boutique L'Atelier au Tournesol ?
Eh bien, là, ça va faire à peu près un an et quelques mois,
okay.
Tout juste, donc c'est très récent.
Trop, trop bien. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer ta boutique ?
Alors, il m'a fallu un petit peu de temps avant de me demander qu'est-ce qui m'a vraiment poussée à faire ça, mais je crois qu'en fait, c'est né vraiment d'un besoin. À ce moment où j'ai créé l'atelier au tournesol, j'étais très très fatiguée dans mon travail, j'avais l'impression de courir partout, c'était très très compliqué. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais besoin de créer du temps pour moi et surtout de ralentir.
Okay.
Donc j'ai commencé à créer, à reprendre des activités manuelles que j'avais délaissées depuis longtemps.
Mm-hmm.
Et donc ça a commencé un tout petit peu en faisant des petites choses en pâte polymère, et
ouais.
Puis des bijoux, et puis 1, puis 15, puis 25. Et puis l'idée est venue de créer une petite boutique pour faire les choses un petit peu proprement, parce qu'on commençait à me demander est-ce que je pouvais vendre les bijoux, ce
ouais.
genre de choses. Et donc c'est comme ça qu'est né l'atelier au tournesol. Et voilà, donc avec une idée d'essayer de prendre le temps, de ralentir et de faire quelque chose qui a du sens, de prendre ce temps pour créer et essayer de faire quelque chose de joli.
Ok, prendre du temps, ça va être notre nouveau mot d'ordre, j'aime beaucoup. Pourquoi ce nom, l'atelier au tournesol ? Est-ce qu'il y a une petite histoire derrière ?
Alors, les tournesols, tout simplement, ça font partie de mes fleurs préférées.
Ok.
Ce n'est pas ma fleur préférée, mais ça en fait partie. Mais par contre, il y a beaucoup d'images très positives avec le tournesol. C'est une fleur qui se tourne vers le soleil, c'est une fleur solaire, tout simplement, qui est jolie, et surtout une fleur qu'on retrouve un petit peu partout, alors certes dans des champs,
mais aussi
des fois sur les bords des routes. C'est quelque chose qu'on peut retrouver un petit peu partout, et ça apporte un petit peu de soleil dans les champs. J'aimais bien l'image.
Ok, donc tu dis que c'est pas ta fleur préférée, donc quelle est ta fleur préférée finalement?
Ce sont les hortensias. Donc
okay.
beaucoup plus lunaire pour le coup.
Ok, le jour et la nuit, le soleil et la lune,
exactement.
Deux opposés mais qui finalement s'accordent bien. Donc nous sommes dans Elle était une fois, une émission qui vise à mettre les femmes dans la lumière qu'elles méritent. Comment c'est d'être une femme dans le milieu de l'artisanat et de l'auto-entreprise ? Est-ce que ça a une incidence sur ton travail et la façon dont tu es perçue ou absolument pas ?
Alors, pour le moment, je crois que je ne m'en rends pas encore spécialement compte.
Okay.
En tout cas, je n'ai pas remarqué vraiment de différence, parce que de toute façon, en réalité, en tant qu'artisan, mm-hmm. on est plutôt solitaire dans,
ouais.
dans le processus de création. C'est peut-être pas le cas de tous, mais en tout cas, moi, c'est le cas.
Okay.
Pour moi, c'est encore tout récent. Mais par contre, en fait, le milieu artisanal, ça reste mm-hmm. quand même un milieu... je trouve plutôt féminin.
Ouais.
La plupart des événements que j'ai pu faire, j'ai rencontré surtout un public majoritairement féminin.
Ok.
Et donc, c'est quelque chose que je ressens pas tellement, au contraire. Ouais. Ça reste plutôt appréciable.
Ok. Et du coup, bah, si t'as un public plutôt féminin, peut-être plus un ressenti de sororité, de bienveillance, tout ça, j'imagine.
Oui. Tout à fait. Ça, par contre, et c'est rigolo parce que, alors, je ne sais pas si c'est lié à ce côté un peu sororal,
mm-hmm.
mais par contre, que ce soit homme comme femme, effectivement, les artisans sont quand même très bienveillants les uns envers okay. les autres. C'est pas facile, surtout dans la conjoncture actuelle. Donc, il y a quand même un côté très bienveillant et d'entraide, même si finalement les uns et les autres peuvent être parfois en concurrence, mais ça reste malgré tout une ambiance d'entraide.
C'est très appréciable comme ambiance. On aime la sororité et la fraternité et tout, la delphité finalement. Comme je le disais tout à l'heure, je suis complètement tombée sous le charme de tes créations et c'est notamment pour ça que je voulais t'inviter, pour que d'autres personnes puissent découvrir ton univers. Et d'ailleurs, en parlant d'univers, est-ce que tu peux un petit peu nous en parler, parce qu'il a l'air très très doux et poétique, et c'est d'ailleurs ce qui est écrit sur ton compte Instagram atelier.au au pluriel point tournesol, atelier.au tournesol au pluriel. C'est un univers qui a l'air très coloré, cosy, fleuri. J'imagine que c'est une esthétique qui te parle particulièrement. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi ?
Alors en fait, comme je le disais, j'ai commencé à créer très égoïstement au tout début pour moi.
Okay.
J'avais envie en fait de mettre en valeur, pour le coup, les choses que j'aimais,
mm-hmm.
Choses que j'avais du mal à faire.
Ouais.
Et donc je me suis rendu compte qu'en faisant des tout petits choix comme le port juste d'un bijou, on pouvait finalement s'affirmer bien plus que ce qu'on pouvait l'imaginer.
Ouais.
Et donc, je me suis donc inspirée de choses qui me plaisaient, comme par exemple tout ce qui est en lien avec l'Asie.
Mm-hmm.
J'aime beaucoup la culture japonaise. J'ai fait des études de japonais très brièvement, dans mon parcours très très brièvement, mais qui m'ont beaucoup plu.
D'accord.
Donc, je me suis inspirée un petit peu de l'Asie, mais surtout de la nature, bien évidemment. Mm-hmm. Mes bijoux sont très fleuris, ils sont très colorés. L'idée, c'était d'avoir quelque chose de joyeux, surtout dans le monde dans lequel on vit. Je pense que ça fait pas de mal. Quelque chose d'un petit peu décalé.
Ouais.
Et voilà, donc il y a toujours une esthétique qui rappelle un petit peu les contes de fées.
Mm-hmm.
Notamment, je m'inspire pas mal de Beatrix Potter,
okay,
par exemple, qui a fait, je pense que vous voyez un petit peu, toute cette imagerie anglaise avec les petits lapins, ce genre de contes-là.
Ouais.
Donc il y a un côté un peu littéraire, Asie, conte en règle générale, et c'est ça qui m'inspire.
Ok, donc très poétique finalement, on en revient à ça. Les filles autour du plateau, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je reviendrai vers vous tout à l'heure. Donc, si j'ai bien compris, tu es basée à Angers. Est-ce que ça veut dire qu'on peut te retrouver quelque part comme sur des marchés ou ce genre de choses, ou est-ce que ta boutique est principalement en ligne ?
Alors, il y a les deux possibilités.
Oh.
Donc, j'ai une boutique en ligne.
D'accord.
Dans laquelle vous pouvez retrouver une partie donc, de mes créations, parce que je fais des bijoux, mais également des petites figurines, des petits accessoires, etc. Et également, alors, j'ai la chance d'être exposée aussi dans une boutique à Angers, qui s'appelle Tourbillon, qui est située, pas loin de Place Saint-Bac.
Ok.
C'est pas très loin de la FNAC, c'est dans ce quartier-là, c'est vraiment plein centre.
Ok.
Donc voilà, il y a une petite partie. Et sinon, effectivement, je privilégie beaucoup d'événements physiques.
Mm.
Donc voilà, petit marché, marché de Noël bientôt.
Ah, on pourra te retrouver sur le marché de Noël. Trop
voilà,
bien.
Quelques-uns, celui de Chalonne notamment.
Ok, pas celui d'Angers.
Pour l'instant, je ne sais pas encore.
Pas encore. On va pas trop vendre la peau de l'ours avant de. Voilà. Je peux finir cette phrase parce qu'elle est pas bien en fait. J'aime pas cette expression. Bref. Ok, trop chouette. Donc on rappelle Tourbillon vers Place en Bac, la FNAC à Angers par là. Vous recherchez sur Google, vous trouverez, je pense, Tourbillon. Trop chouette. J'ai vu sur ton site que tu proposais ponctuellement des collections. Comment ça se passe ? Est-ce que tu choisis un thème et tu réalises des créations autour de ce thème ? Ou comment ça se passe un petit peu ton cheminement créatif ?
Alors, je dirais qu'il est quand même assez chaotique. On va pas se mentir. C'est-à-dire que souvent, je me réveille un matin avec une idée.
Ouais.
Alors, ça peut être juste une idée de couleur ou de forme ou quelque chose de complètement abstrait parce que j'ai croisé quelque chose dans la rue qui m'a semblé trop cool, des agencements de couleurs. Et puis après, voilà, je me mets à faire des petits croquis, par exemple dans des carnets comme celui que j'ai devant moi à l'heure actuelle. Et ensuite, effectivement, j'essaie de trouver une espèce de cohérence, voir si je peux tirer un fil, essayer de créer toute une gamme autour d'un thème qui se dégage petit à petit. Et donc j'essaie de bien sûr de suivre les saisons, parce que comme je le disais, voilà, ralentir, prendre son temps, ça va avec aussi l'idée de un peu vivre à son rythme, respecter un petit peu les saisons. Et donc ça fait partie d'une de mes forces, en tout cas dans mon processus créatif.
Ok, c'est trop chouette et je trouve pas que ce soit créatif, enfin chaotique pardon. En fait, c'est littéralement ce que j'imagine quand on parle de créativité. C'est un petit peu un truc comme ça. Ouais, on s'éparpille peut-être, mais on finit par retrouver son chemin et en tirer de jolies choses. Et ça, j'ai pu le constater de mes propres yeux. Est-ce que sur le plateau, vous avez une question pour notre invité ou pas spécialement ?
Moi, je voulais savoir, ça te prend combien de temps à peu près à faire un bijou ?
Alors, c'est une excellente question. Alors, si je prends par exemple juste une paire de boucles d'oreilles que j'essaie d'extraire le temps, je pense que tout le processus, ça doit être une bonne heure à peu près par paire de bijoux. Mais en fait, comme je ne travaille pas vraiment bijou par bijou, je fais plutôt en série. Ça me prend des dizaines d'heures, que ce soit travailler la pâte, la sculpture, parce que c'est vrai que je sculpte tout à la main. Il y a la cuisson, le vernis, et surtout après, l'assemblage et le ponçage. Et là, c'est une autre paire de manches, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc ça prend un gros nombre d'heures en tout.
Okay. Du temps, mais de la qualité en finalité, et pour notre plus grand plaisir, parce que c'est vraiment trop, 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 trop beau. Je vais continuer à le dire encore et encore. De nouveau, nous sommes dans Elle était une fois, l'émission féministe qui n'a pas peur de dire la vérité. J'aimerais qu'on parle à présent un petit peu de ta relation avec le féminisme. Est-ce que tu réalises des actions grandes ou petites en lien avec le féminisme, comme par exemple utiliser le langage inclusif, aller en manif, éduquer les gens autour de soi, etc., ce genre de choses, ou pas tellement? Et un peu, qu'est-ce que tu fais ou pas?
Alors, autour de moi, effectivement, c'est quelque chose que, en tout cas, j'aime bien affirmer mes idées.
Ouais.
Quand il y a quelque chose qui me semble un petit peu lunaire, j'aime bien, en tout cas, pouvoir essayer de reprendre, essayer d'ouvrir le débat, comprendre un petit peu. Et sinon, dans mon travail, alors là, récemment, il se trouve que, entre guillemets, une petite action que j'ai mise en place pour le mois de novembre et décembre, donc ça s'appelle le calendrier des créatrices.
J'allais y venir, c'était l'une de mes questions, justement. Trop chouette.
Donc voilà, donc il y a ce petit projet là que j'ai mis en place, qui met à l'honneur donc des femmes créatrices. J'utilise vraiment le terme créatrice plutôt que artisane ou artiste pour pas vraiment enfermer.
Okay.
Parce qu'en fait, on est créateur de plein de façons différentes. Et donc là, l'idée, c'était vraiment de mettre en avant les artisanes, les artistes, les créatrices locales, françaises.
Trop chouette.
Pour faire découvrir et surtout avoir une idée de qu'on peut consommer aussi autrement.
Et pour la fin d'année. C'est une super initiative. Effectivement, je vois plusieurs créatrices essayer de mettre en avant l'artisanat pour inciter pour les fêtes de fin d'année, parce que mettons en avant en fait nos artistes français, parce qu'ils le méritent. Yel le mérite, pardon. N'oublions personne. Ce calendrier des créatrices, c'est vraiment une initiative que je trouve trop trop chouette, parce que ça permet de mettre en avant plein de personnes, comme tu l'as dit. Qu'est-ce qui a motivé ce projet, justement? Est-ce qu'il y a un point de départ qui a suscité tout ça?
Alors oui, en fait, je me suis rendu compte que la question des réseaux sociaux, de la communication, c'était un vrai souci. Au global pour les artisans, les créatrices, parce que ça prend toujours du temps sur le processus créatif. C'est quelque chose qui est compliqué à mettre en place, et surtout les algorithmes changent beaucoup. Il y a aussi une méconnaissance pour certains artistes et artisans. Donc en fait, là, l'idée, c'était de se donner un espèce de petit coup de boost sur les réseaux sociaux, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais le calendrier des créatrices donc se déroule donc sur Instagram. L'idée, c'est de mettre à chaque fois en avant à peu près trois créatrices par poste, un chaque semaine jusqu'à la semaine de décembre. Et donc l'idée, voilà, c'était de partager en fait nos connaissances et aussi tout ce qui était partage, like, vue, pour en fait essayer de faire connaître au maximum de gens, utiliser finalement les réseaux des uns et des autres pour essayer de créer une espèce de boucle un peu vertueuse.
Ok, c'est trop bien. Et du coup, j'imagine que les créatrices que tu mets en avant te repartagent aussi le post justement, ou comment un peu ça se passe, petit réseautage qui se fait.
Alors en fait, comment ça se passe, c'est que maintenant on a une nouvelle possibilité sur Instagram qui est donc de collaborer,
ouais,
créer donc un post qui peut être, qui engendre le, qui concentre en fait toutes les vues, tous les likes, etc. Et donc tout le monde peut repartager sur sa propre page, ce qui fait que si quelqu'un partage ou like une publication sur la page d'un tel, et ben toutes les personnes qui seront en collaboration en bénéficieront également. Donc c'est via ce biais-là que ça s'est fait.
C'est trop intéressant. On fait la collaboration également ici dans Elle était une fois, et on voit que ça fonctionne plutôt pas mal, donc c'est trop chouette. Auditeurs, auditrices, on vous donne l'astuce, faites des collaborations, ça fonctionne pas trop mal. Trop bien. En tout cas, c'est de nouveau un trop beau projet, et c'est une belle solidarité qui se développe entre vous, et peut-être que ça peut permettre également du coup des collaborations entre vous, non?
Alors pour le moment il n'en est pas encore, question, parce que là c'est que la deuxième édition du calendrier. Je pense que voilà, on est qu'à la deuxième semaine, mais peut-être que ça viendra. Après, en tout cas à titre personnel, j'aime bien collaborer avec d'autres artistes.
Ouais.
Là pour l'instant, j'ai eu l'occasion de faire deux collaborations depuis que j'ai commencé.
Trop chouette.
En tout cas, c'est des choses que je trouve très chouettes, et puis partager des univers, essayer de de faire connaître l'art des uns et des autres, ça me semble important, et c'est de valoriser en fait l'artisanat, surtout avec un monde où la consommation devient un problème aussi, surtout la surconsommation. Donc voilà, essayer de consommer plus petit, plus local, c'est l'idée.
Et je suis trop d'accord avec tout ça, et c'est trop chouette. Donc j'envoie plein de force à toutes les créatrices qui partagent leur création en ce moment et à l'année, et notamment à toi Zoé, parce que tes créations sont vraiment magnifiques, je me répète et je le répéterai jusqu'à la fin de ma vie. Et parce que le féminisme, enfin, c'est aussi de la sororité. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, à une jeune femme qui voudrait se lancer dans l'artisanat mais qui n'ose pas?
Alors ce que je lui conseillerais, c'est d'essayer de faire taire la petite voix qui décourage, qui a très peur, ouais, qui se sent pas légitime, surtout. Parce que c'est quelque chose qui, moi je fais face encore très très souvent, hein. C'est compliqué. Mais en fait, l'idée c'est de se dire que chaque petit pas compte, et en fait il vaut mieux faire que pas faire du tout. Même si c'est pas très bien fait, même si c'est qu'un début, en fait l'œil s'aiguise avec le temps. La pratique aussi, et donc notre exigence qui est peut-être haute dès le départ, les compétences techniques vont y arriver progressivement, mais ça c'est un travail qu'il faut pas lâcher. Et donc je lui dirais ne pas lâcher et essayer de se faire confiance et essayer de faire son maximum pour trouver une petite piste, quelque chose qui puisse lui permettre de se lancer, un événement, même un tout petit quelque chose, qui puisse lui permettre de faire surtout ce qu'elle aime.
Et c'est très important. Merci beaucoup Zoé pour ces beaux conseils et pour cet échange. C'était un vrai plaisir de te recevoir sur le plateau. Nous ne manquerons pas évidemment de suivre tes prochaines collections, et je penserai à toi pour mes prochains cadeaux. J'ai une copine qui est absolument fan de champignons, donc c'est parfait. Je sais quoi lui offrir. Vous pouvez retrouver Zoé et ses créations sur Instagram, atelier.au.tournesol, au tournesol au pluriel évidemment. Je répète, atelier.au.tournesol. Vous retrouverez là-bas toutes les infos, notamment le lien vers son site internet. Merci encore d'avoir accepté l'invitation, et surtout merci de nous faire rêver avec tes créations et ton univers, mais également de participer à la représentation positive des femmes dont on a tant besoin. On va à présent marquer une nouvelle pause musicale, puis nous reviendrons dans quelques instants avec une histoire qui va nous emmener dans les étoiles, puis nous discuterons ensemble d'un sujet très important, comment se protéger du harcèlement de rue. On en parle dans quelques minutes, alors restez avec nous. Mais avant tout ça, je vous propose d'écouter Capuche de Elena, issue de son nouvel album qui est pile poil dans le thème de notre débat justement. Je vous laisse écouter et on se retrouve dans un instant sur Radio G 101.5 FM ou sur radio-g.fr. Bonne écoute.
Marche 3, sont arrêtés, mais ta capuche, même en été. Regarde pas, ce mec arrêté, qui te regarde. Est-ce que c'est ton cul ou bien ton sac? Est-ce qu'il t'a reconnu ou est-ce qu'il s'en tape? Et même s'il s'en fiche, moi ça me fait peur. La nuit les filles parlent à des répondeurs. Pourquoi ils me parlent toujours les mêmes blagues? Mes yeux étoiles, je mériterais bien une bague. Je lui dis que j'ai un gars, il me dit que c'est pas grave. L'amour c'est bien à trois, moi je passe le pas. Moi je veux pas d'une bague, je veux pas qu'on me regarde. C'est dimanche, il est tard, je veux juste rentrer chez moi. Je veux juste rentrer chez moi, je veux juste rentrer chez moi. Mais qui a écrit ce film où on emmerde les filles quand elles marchent dans les villes? J'ai ma tête sur la capuche la nuit, je presse le pas quand je marche. Caché sur ma capuche, pourquoi c'est pas toi qui te cache? J'ai ma tête sur la capuche la nuit, je regarde rien quand je marche. Caché sur ma capuche, pourquoi c'est pas toi, toi qui te cache? Devant chez moi, je trouve pas mes clés, mais toujours là, à me parler. Je bouge mes oreilles, je mets mon casque pour qu'elle s'en aille. Il me dit c'est pas ton cul, c'est pas ton sac. Tu t'appelles Elena, je t'ai vu à la Starac. Bien sûr je t'ai reconnu, t'es plus jolie en vrai. Dans ton œil y'a un truc. Mais t'es une star, là je parle à une star. Comment ça il est tard, vas-y juste une photo. Pourquoi tu me prends de haut, en vrai t'es pas sympa. En fait t'aimes pas les gens, c'est ça. Tu feras moins la jolie quand tu seras entêtée. Elle refuse en selfie. Je veux juste rentrer chez moi, je veux juste rentrer chez moi, je veux juste rentrer chez moi. Mais qui a écrit ce film où on emmerde les filles quand elles marchent dans les villes? J'ai ma tête sur la capuche la nuit, je presse le pas quand je marche. Caché sous mes capuches, pourquoi c'est pas toi qui... All day, every day, therapist, mother made me. Then a virgin, nurse, then a servant, just an appendage, live to attend him, so that he never lifts a finger.
Vous êtes toujours avec nous dans Elle était une fois sur Radio G 101.5 FM ou sur radio-g.fr et je suis toujours avec mes copines Emeline Mayalen et notre invitée du jour Zoé, créatrice de bijoux connue sous le nom de l'atelier au tournesol. Ça va Zoé, tu passes un bon moment avec nous?
Excellent moment, merci beaucoup.
Eh bien trop bien, nous partons à présent pour le centre de contrôle de Houston en 1984 pour découvrir l'histoire d'une femme qui a la tête dans les étoiles, littéralement. Bonjour Léonie!
Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve cette semaine pour une chronique littéraire qui me fait grandement plaisir, parce que je veux vous parler de l'une de mes autrices préférées, Taylor Jenkins Reid. Jenkins, J-E-N-K-I-N-S, et Reid, R-E-I-D. Si vous ne la connaissez pas encore, ne vous inquiétez pas. C'est un tout nouveau monde incroyable qui s'offre à vous, et je suis persuadée qu'il vous plaira. Mais avant de se plonger dans le roman du jour, laissez-moi vous planter le décor. Cette autrice états-unienne, elle est très réputée pour écrire un genre qui est assez particulier. Elle rédige en quelque sorte la biographie de la vie fictive de stars des années 1970-1980. L'un de ses romans les plus connus s'appelle « Les sept maris d'Evelyn Hugo » et il dépeint la vie complètement scandaleuse d'une actrice et de ses nombreux mariages. Dans un autre livre, « Daisy Jones and the Six », qui, je dois l'avouer, est mon préféré de sa bibliographie, on peut y découvrir l'histoire d'un groupe de rock qui s'est mystérieusement séparé, sans jamais expliquer pourquoi, et qui raconte enfin la raison plusieurs décennies après les faits. Et avec Atmosphère, sa dernière parution datant de 2025, publiée chez Ballantine Books aux États-Unis et chez les éditions Charleston en France, on suit le parcours d'une astronaute de la NASA. Rien que ça déjà, c'est super stylé. Mais ça devient encore plus stylé quand on apprend que l'une des intrigues principales, c'est une romance lesbienne entre deux astronautes. Je me suis plongée aux côtés du personnage de Joanne Goodwin dans un monde qui m'était parfaitement inconnu. Et grâce à elle, j'ai trouvé un point d'ancrage. Parce que si l'espace, c'est pas un domaine qui me touche au quotidien, j'ai pu comprendre la difficulté des épreuves qu'elle traverse, du fait de la misogynie et de l'homophobie du monde scientifique des années 70. J'ai été aussi très attendrie par sa relation hyper touchante avec sa nièce, à qui elle transmet sa passion pour l'univers. Et bien sûr, j'ai adoré suivre la romance qui se tisse avec son équipière Vanessa et la beauté de leur lien solide. Mais je dois vous prévenir, prévoyez quelques mouchoirs et essayez d'avoir le cœur bien accroché, parce que c'est un roman qui ne prend pas du tout soin de nos petits cœurs fragiles. Et oui, j'ai complètement pleuré en le lisant, mais ça reste entre nous, ok ? Alors si vous voulez un roman queer, féministe, ambitieux, émouvant, et qui vous fera passer par toutes les émotions, je vous conseille de lire Atmosphère de Taylor Jenkins Reid. Faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus. Je vous laisse à votre lecture, moi je repars chercher de nouvelles pépites féministes, et on se revoit dans 2 semaines.
Merci beaucoup Léonie pour cette nouvelle découverte. Tu m'as eu avec l'histoire d'amour lesbienne, je l'ajoute direct à ma wishlist. L'heure est venue à présent de discuter de quelque chose que de nombreuses personnes ont malheureusement vécu et qu'il serait grand temps d'arrêter. Je veux parler du harcèlement de rue. Alors, comme d'habitude, avant d'en discuter, je vais définir ce qu'est le harcèlement de rue. Notez, messieurs, parce que peut-être que ça mettra en lumière vos propres comportements problématiques et ce sera pas plus mal. Prenez des notes. Alors, selon Wikipédia, le harcèlement de rue désigne des pratiques de harcèlement sexuel subies principalement par des femmes dans l'espace public, lieu public, rue, place ou transport public, de la part d'inconnus de genre masculin principalement. Autrement dit, ça regroupe toutes les formes d'objectification sexuelle comme les sifflements, les remarques déplacées, les coups de klaxon, les grognements, bref, tout comportement à connotation sexuelle ou sexiste, dégradant ou humiliant. Et malheureusement, je pense ne pas trop m'avancer si je dis qu'on a au moins toutes vécu ce genre de comportement au moins une fois dans notre vie ou qu'on connaît quelqu'un qui l'a subi. Alors, on est donc mon objectif aujourd'hui pour cette discussion, c'est qu'on trouve des moyens de s'en protéger. Alors on est tous d'accord pour dire que la honte doit changer de camp et que ce n'est pas aux victimes de se remettre en question et de changer. Mais malheureusement, à notre échelle individuelle, on n'a pas beaucoup de contrôle sur le comportement des harceleurs. Je voudrais donc savoir autour de la table ce que vous faites ou ce qu'on pourrait faire collectivement lorsqu'on est témoin d'un comportement de ce genre. Émeline.
Alors je pense que si on est victime d'harcèlement de rue...
Mets-toi bien proche du micro.
Je pense que la première chose en vrai qui, en tout cas moi, qui me viendrait en tête, c'est de faire comme si j'avais rien entendu, que ce soit un sifflement ou des onomatopées un peu qu'on entend derrière nous.
Ok.
Plutôt d'ignorer. Sauf que des fois, ça peut vraiment devenir constant et un peu irritant. Mm-hmm. Mais je pense qu'on ne sait jamais qui est devant nous. Et si jamais c'est quelqu'un d'assez agressif ou etc., j'avoue que j'aurais un peu peur d'agir.
Ouais.
Mais après, si par exemple, c'est quelqu'un d'autre à côté de moi, ou je vois par exemple dans le train ou dans le bus une femme qui se fait regarder fixement ou etc. Je pense que ça m'énerve vraiment. Je me retiendrai pas en fait de dire quelque chose.
T'irais à la confrontation?
Ouais, enfin pas non plus trop brutalement.
Ouais, parce qu'il faut pas se mettre en danger. Ouais, ouais.
Je pense que je dirais bah monsieur, qu'est-ce que vous faites? Faut pas la regarder comme ça. Vous la mettez mal à l'aise quand même.
Ok. Ouais. Ok. Et toi, Mayalène, qu'est-ce que tu fais si t'es témoin de ce genre de comportement?
Moi, je pense que, enfin, si ça m'arrive, je sais que bon, j'ai toujours un casque sur les oreilles, donc j'entends pas. Mais je pense que, en vrai, je dis rien parce que, comme a dit Emeline, genre, on sait pas sur qui on tombe. On peut tomber sur des fous. Après, j'ai déjà entendu des témoins d'amis qui les ont confrontés et genre juste ils s'excusent après parce qu'ils s'attendent pas à ce qu'on leur réponde. Et genre, miskine à vous, parce que la honte. Mais, bref, voilà. Mais du coup, ouais, et puis bah, sinon, si je vois quelqu'un, si je suis témoin de ça, je pense que j'irai voir, parce que pour en avoir vécu, genre dans le métro, etc., j'aurais bien aimé que, tu vois, quelqu'un vienne m'aider, etc. Enfin, girls, quoi.
Bah ouais, carrément.
Voilà.
Carrément, girls, mais on se met pas en danger, oui. On fait attention à soi et on essaye de faire ça bien. Et toi Zoé, qu'est-ce que tu fais quand t'es témoin ou victime de ce genre de comportement?
Alors récemment, j'ai été témoin d'une jeune femme un soir qui se faisait interpeller par un groupe d'hommes.
Oh, ok.
Et donc en fait, alors j'étais avec ma sœur à ce moment-là, je lui ai dit, viens, on va marcher plus vite, on va la rejoindre. Et on a fait, tu nous as devancés, viens, attends, on va continuer la route ensemble, attends-nous quand même, etc. On a fait semblant qu'on était ses copines. Et du coup, je pense que ça, c'est une technique où en fait, je parle pas du tout à la personne. Mm. En fait, je parle juste à la fille en lui disant... tu viens avec moi, on est en retard ou quelque chose et fait, attraper la fille et lui dire, ouais, demander si ça va, en fait.
Ouais. Voilà. C'est trop une bonne idée. Je vois ça aussi, bah, surtout sur les réseaux sociaux. J'ai vu pas mal de femmes donner cette astuce. J'ai pas encore eu la possibilité de le faire. Et en même temps, quand t'es témoin de ça, ton cerveau, je pense, il s'éteint un peu. Donc, tu sais pas trop comment tu peux réagir. Mais effectivement, ça peut être une bonne astuce pour ne pas se mettre en danger en confrontant directement l'agresseur et en protégeant la victime et en lui assurant une forme de soutien. Donc, c'est pas plus mal. J'ai fait mes petites recherches parce que je fais mes devoirs et justement j'ai vu sur internet des petits conseils, des petites astuces qui parlaient notamment de la confrontation directe mais en faisant très attention parce que faut pas se mettre en danger, distraire l'agresseur en par exemple en lui sans lui parler du tout de la situation mais en détournant son attention, lui demandant l'heure ou son chemin par exemple, et en fait bah comme il s'y attend pas, il oublie qu'il agresse quelqu'un et hop il passe à autre chose. Ça peut être une technique et au moins on évite un petit peu de se mettre en danger. Après faut prendre en compte la situation. Sinon on peut demander assistance aux personnes. Par exemple, si on est dans les transports en commun, genre le bus, on peut aller voir le chauffeur pour demander de l'aide pour qu'il intervienne. Ça peut être quelque chose. Ou sinon, j'ai vu aussi agir après les faits en s'assurant que la personne va bien ou si elle a besoin de quelque chose, la raccompagner, prévenir quelqu'un. Ça peut être quelque chose parce que l'objectif, c'est vraiment pas de se mettre en danger, c'est porter assistance si on le peut en faisant attention selon ses capacités. Ok, mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour se protéger soi-même si on se sent en danger dans l'espace public? Emeline, est-ce que tu as une petite idée? Des petites astuces?
Alors, je pense, l'astuce, des fois que je pense en premier, quand il fait un peu nuit ou quoi, c'est de faire ce moment de parler au téléphone.
Je le fais aussi.
Avec une copine, mes parents, ou voilà.
Ok, mais moi, alors moi, j'appelle carrément quelqu'un. Ouais. Et pas plus tard que cette semaine, j'ai appelé Léonie, qui était depuis l'Italie. Je l'ai appelée. Je lui ai dit, je rentre toute seule ce soir, tu vas être avec moi au téléphone. Et on a papoté, on a raconté nos vies. Et comme ça, j'ai pu rentrer mes 15 minutes à pied tranquillement. C'est une bonne astuce. On vous la transmet, auditorice. On vous donne les astuces ici. Maïlène, est-ce que t'as une autre petite astuce?
Moi, j'avoue, je fais la technique du téléphone aussi. Et sinon, j'avoue que j'ai même pas de... Parce que je sais que j'ai des amis qui ont, tu sais, les trucs de poivre, etc.
Ah ouais.
J'avoue que moi, j'ai pas du tout ça. J'ai peut-être aucune notion de danger. Mais genre, j'avoue que soit j'appelle ou soit genre juste... je me dis, vas-y, je suis dans ma bulle. Personne va venir m'embêter. Alors que bon, voilà. Mais j'ai aussi ce truc de... Quand je sors la nuit, j'aime bien me balader la nuit, toute seule. Mais genre, je vais mettre une casquette, je vais mettre une capuche. Genre, un truc comme ça, en mode... je me... Comment dire, je suis un fantôme quoi.
Ok.
Mais bon,
t'essayes de
c'est pas la meilleure des choses, mais bah ouais, c'est un peu associé de facilité. Mais bon, l'appel, je trouve c'est le mieux parce que au moins tu te sens genre, je sais pas, tu te sens en sécurité. Je trouve ça cool.
Ouais, c'est pas mal. De toute façon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Je relève la bombe au poivre. Je sais pas si la bombe au poivre ça correspond, mais il me semble que c'est pas légal d'avoir ça dans son sac.
C'est considéré comme une arme, je pense. Hein. Donc, je crois qu'il y a aussi une technique avec les clés. On les prend comme ça dans nos mains.
Ouais.
Apparemment, tu peux te faire mal, j'ai vu ça. Genre, tu peux te faire toi-même mal avec la clé, genre.
Ouais, faut faire gaffe.
Ouais, faut faire attention. Mais du coup, les bombes au poivre, c'est pas légal. Alors que le parfum, ça l'est. Le déo, le parfum. Moi, je vous dis les astuces. Hein. La bombe au poivre, c'est pas légal dans le sac à main. Mais le déo, il n'y a pas de souci. Donc, légitime défense. Hein. Voilà. Je suis pas sûre, j'ai pas fait de droit, donc venez pas m'attraper ma veste si je dis des bêtises, hein, ok? Et toi Zoé, est-ce que t'as des petites astuces pour rentrer le soir en sécurité?
Effectivement, alors moi aussi, la technique du téléphone, faire semblant d'avoir un gros casque et de rien entendre, je le fais aussi. Mais surtout, en fait, en réalité, j'essaie toujours d'être accompagnée.
Ouais.
Ouais, j'ai du mal à sortir vraiment toute seule le soir, c'est compliqué.
Ok, bah oui, malheureusement... c'est la galère ici. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais c'est le problème. Et ça m'énerve vraiment qu'on doive avoir des techniques comme ça. On n'est pas des ninjas. Hein. À un moment donné, laissez-nous vivre par pitié. Donc, bon, mais bon, il faut ce qu'il faut. Donc, pour être en sécurité dans la vie, s'il faut trouver des astuces, ben, on les trouvera. Et on se partage. Donc, auditeurice, si vous avez d'autres astuces, des petits conseils, des petits tips pour qu'on puisse se sentir en sécurité dans l'espace public ou le soir, n'hésitez pas à nous les transmettre sur notre Instagram EEUF-RadioG. Voilà. Merci beaucoup pour cet échange. C'était trop trop chouette de pouvoir discuter avec vous. Et j'espère que nous avons pu aider certaines personnes. Et si on a pu refroidir les hommes avec un grand Z pour qu'ils arrêtent de nous emmerder dans la rue, ce serait qu'un service rendu à la société finalement. Donc merci encore à l'équipe d'aujourd'hui, merci Anna, merci Emeline, merci Léonie et merci Mayalène. Et bien sûr, merci à vous aussi, auditeuristes, d'avoir suivi cette émission. On se retrouve dans 2 semaines avec de nouveaux sujets. Et si je peux vous teaser, nous parlerons du Elle Festival, qui est organisé par le Shabada et qui a lieu actuellement du 13 au 22 novembre. C'était Elle était une fois, votre émission féministe du 101.5 FM, et je suis toujours aussi contente de pouvoir discuter avec vous pendant une heure, c'était trop trop chouette. On vous a parlé durant cette heure des actualités angevines et nationales, Anna vous a présenté Sexy Sushi, un groupe de musique nantais, puis nous avons découvert l'histoire de Russ Ellis, la dernière femme à avoir été condamnée à mort au Royaume-Uni. Léonie nous a ensuite présenté Atmosphère de Taylor Jenkins Reid, et nous avons discuté du harcèlement de rue. Nous avons eu le plaisir de discuter avec Zoé, créatrice de bijoux et autres petits objets trop mignons, aussi connue sous le nom de l'atelier au tournesol. Merci encore d'avoir accepté l'invitation, Zoé. Ça va, t'as passé un bon moment avec nous?
J'ai passé un très bon moment, c'était super, merci beaucoup.
Oh, c'était trop chouette, un vrai plaisir d'échanger avec toi et j'ai trop hâte de découvrir tes prochaines créations. On vous souhaite une très belle journée sur Radio G, retrouvez Entre les pages ce soir à 17h. Et si vous souhaitez découvrir des nouvelles voix féminines, rendez-vous demain à 20h pour Elle chante la francophonie. Et si vous avez envie de découvrir des recos de films engagés, Clap & Chat a sorti un épisode sur le film Muganga qui parle des violences sexuelles au Congo. Retrouvez leur émission en podcast sur leur site radio-g.fr. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines à 13h et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur notre Instagram EEUF-RadioG. Et pour bien finir cette émission, on termine avec une dernière musique qui nous a été recommandée cette fois par Anna. Donc si vous avez bien suivi tout à l'heure, j'ai parlé du groupe français Sexy Sushi et j'ai aussi amorcé une musique co-réalisée avec Nad Mika qui est une chanteuse germanophone. Waouh, je parle plus français. Après avoir capté la DA que renvoyait Sexy Sushi, je peux vous dire qu'un feat en allemand, ça claque d'autant plus. Cassant les codes et les cordes vocales, vous écoutez Girlfriend 09. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Elle était une fois sur Radio G 101.5 FM. Et gros bisous, à dans 2 semaines. Bisous. Et je fais des bêtises. Bisous.
I wanna be your girlfriend. Je vous ai tout.
Radio G.
Just wanna tell you.
101.5 FM.